tout en se gardant de promettre de sauvegarder les quelques 4000 salariés des complexes de Scunthorpe et Teesside. Malgré tout, la réaction à ce rachat est mitigée au Royaume-Uni. Si les employés et les syndicats du secteur saluent l'annonce d'un accord rassurant pour l'avenir immédiat de milliers d'ouvriers, ils restent prudents quant aux intentions à long terme du groupe. Les partis d'opposition, eux, critiquent ce rachat à bas prix par la Chine, dont la concurrence féroce a justement contribué au déclin du secteur en Europe. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Juan Gomez appelle sur l'actualité.
Avec les auditeurs de RFI. Merci Jeanne Bartoli. Bonne journée à vous tous. Il est 8h.
Radio G, 101.5 FM.
Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à Aimé Césaire, qui nous a quittés le 17 avril 2008. Nous avons pensé que le meilleur hommage serait de lire des extraits du cahier du retour au pays natal, long poème de révolte et de rébellion contre l'esclavage, le colonialisme et le racisme. Une première version de ce texte majeur paru en 1939, il sera remanié et réédité en 1947, et 1956. Aimé Césaire a donc traversé le XXe siècle puisqu'il est né en 1913 à Basse-Pointe, en Martinique. Écoutons-le lors d'un entretien de 1976 avec Édouard Monique parler de son pays qui le reflète.
Je suis né à la Martinique, très exactement dans un petit village qui s'appelle Basse-Pointe, dans le nord de la Martinique. Un paysage assez étonnant, un peu breton, d'une très haute falaise, en face de l'Atlantique déchaîné. Et c'est pas pour faire de l'explication de texte à la manière de Taine, mais je crois que ce n'est quand même pas sans signification, parce que la Martinique a deux visages. La Martinique a un visage caraïbe, qui est très doux, une sorte d'eau plate, c'est calme, et c'est reposé, et c'est un petit peu comme on imagine les îles Bienheureuses. Et puis, il y a un autre aspect, alors, qui est la côte nord, où il n'y a pas de port. Ce sont des falaises abruptes, un rocher noir, des dacites, je crois, dacites et basaltes, et alors une mer absolument déchaînée, extraordinaire. Et je suis de cette côte-là. Et peut-être que... Et ça me plaît beaucoup. Enfin, je crois qu'il y a à la fois chez moi, un côté qui est extrêmement violent, extrêmement déchaîné.
Oui.
Je ne suis pas loin de la montagne Pelée. Et le motif du volcan également joue un certain rôle chez moi.
Oui.
Je me reconnais assez volontiers dans ce genre de paysage.
Vous avez donc entendu la voix d'Aimé Césaire qui répondait à Édouard Monique. Donc, d'enfant turbulent qu'il était, Aimé Césaire deviendra un élève studieux. Il fréquente donc le lycée de Fort-de-France, puis le bac en poche. Il se rend en métropole, au lycée Louis-le-Grand, où il commence ses études de lettres et intègre l'école normale supérieure. À Paris, il fait la connaissance de deux étudiants qui auront pour lui une importance décisive. Il s'agit de Léon Gontran Damas et du poète sénégalais Léopold Senghor. C'est en France, dans cette société blanche, qu'il se découvre noir. Ainsi, dans ces années 1920-1930, peu à peu se cristallise la notion de négritude. On lui a jeté le mot nègre à la figure, il l'a ramassé et l'a brandi en étendard de fierté. Il a porté, crié, écrit l'arrachement à la terre d'Afrique, les siècles de souffrance de l'esclavage, la vie avilie aujourd'hui en Martinique. Voici ce qu'il écrivait.
Ainsi, la négritude, c'était pour nous une réaction contre tout cela. D'abord, l'affirmation de nous-mêmes, le retour à notre propre identité, la découverte de notre propre moi. Ce n'était pas du tout une théorie raciste renversée.
Aimé Césaire a choisi d'écrire en français, dans un français renouvelé, traversé par la créolité, l'exotisme, les rythmes et les sons africains, travaillé également par la tradition biblique, les mots d'origine grecque ou latine, enrichi de mots qu'il a inventés. Ainsi, lors d'un entretien avec Jacques Lehner, il explique.
Mon effort a été d'infléchir le français et de le transformer pour exprimer ce moi nègre, ce moi créole, ce moi martiniquais.
Mata con ti velo rondo e tomi tomi tomam Vaya mi en domo mo si la blacla di si la plen basello la Vaya mi en domo mo si la blacla di si la plen basello la Cascande dans les carottes sira 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 sasme When I la flem do momo sous pieds à clale en carême dans mon ben là.
Au bout du petit matin, bourgeonnant, danse frêle, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans le bout de cette baie, dans la poussière de cette ville, sinistrement échouées. Au bout du petit matin, l'extrême, trompeuse, désolée, escarre sur la blessure des os, les martyrs qui ne témoignent pas, les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile, comme des cris de perroquets babillards. Une vieille vie menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée. Une vieille misère pourrissant sous le soleil, silencieusement. Un vieux silence crevant de pustules tièdes, l'affreuse inanité de notre raison d'être.
Dans cette ville inerte, cette foule désolée sous le soleil, ne participant à rien de ce qui s'exprime, s'affirme, se libère au grand jour de cette terre sienne, ni à l'impératrice Joséphine des Français rêvant très haut au-dessus de la négraille, ni au libérateur figé dans sa libération de pierre blanchie, ni au conquistador, ni à ce mépris, ni à cette liberté, ni à cette audace. Au bout du petit matin, cette ville inerte et ses au-delà de lèpre, de consomption, de famine, de peur trapie dans les ravins, de peur juchée dans les arbres, de peur creusée dans le sol, de peur en dérive dans le ciel, de peur amoncelée et ses fumerolles d'angoisse.
Au bout du petit matin, le morne accroupi, devant la boulimie aux aguets de foudres et de moulins, lentement vomissant ses fatigues d'homme, le morne seul et son sang répandu, le morne et ses pansements d'ombre, le morne et ses rigoles de peur, le morne et ses grandes mains de vent.
Et ni l'instituteur dans sa classe, ni le prêtre au catéchisme ne pourront tirer un mot de ce négrillon somnolent, malgré leur manière si énergique à tous deux de tambouriner son crâne tondu. Car c'est dans les marais de la faim que s'est enlisée sa voix d'inanition. Un mot, un seul mot, et je vous en tiens quitte de la reine blanche de Castille. Un mot, un seul mot, voyez-vous ce petit sauvage qui ne sait pas un seul des 10 commandements de Dieu. car sa voix s'oublie dans les marais de la faim, et il n'y a rien, rien à tirer vraiment de ce petit vaurien qu'une faim qui ne sait plus grimper qu'aux agrès de sa voix, une faim lourde et veule, une faim ensevelie au plus profond de la faim de ce morne famélique.
Et cette joie ancienne m'apportant la connaissance de ma présente misère, une route bossuée qui pique une tête dans un creux où elle éparpille quelques cases, une route infatigable qui charge à fond de train un morne en haut duquel elle s'enlise brutalement dans une mare de maisons pataudes, une route follement montante, témérairement descendante, et la carcasse de bois comiquement juchée sur de minuscules pattes de ciment que j'appelle notre maison. Sa coiffure de tôle ondulante au soleil comme une peau qui sèche, la salle à manger, le plancher grossier où luisent des têtes de clous, les solives de sapin et d'ombre qui courent au plafond, les chaises de paille fantomales, la lumière grise de la lampe, celle vernissée et rapide des cancrelats qui bourdonne à faire mal.
Noël n'était pas comme toutes les fêtes. Pas à courir les rues, à danser sur les places publiques, à s'installer sur les chevaux de bois, à profiter de la cohue pour pincer les femmes, à lancer des feux d'artifice au front des tamariniers. Il avait l'agoraphobie, Noël. Ce qu'il lui fallait, c'était toute une journée d'affairement, d'apprêt, de cuisinage, de nettoyage, d'inquiétude.
De peur que ça ne suffise pas.
De peur que ça ne manque.
De peur qu'on ne s'embête.
Puis, le soir, une petite église pas intimidante qui se laissa emplir bienveillamment par les rires, les chuchotis, les confidences, les déclarations amoureuses, les médisances et la cacophonie gutturale d'un chantre bien d'attaque, et aussi de gais copains et de franches luronnes, et des cases aux entrailles riches en succulences, et pas regardantes, et l'on s'y parque une vingtaine, et la rue est déserte, et le bourg n'est plus qu'un bouquet de champs, et l'on est bien à l'intérieur, et l'on en mange du bon, et l'on en boit du réjouissant, et il y a du boudin, celui étroit, de deux doigts qui s'enroule en volubile, celui large et trapu, le bénin à goût de serpolet, le violent à incandescence pimentée, et du café brûlant et de l'anis sucré et du punch au lait, et le soleil liquide des rhums et toutes sortes de bonnes choses qui vous imposent autoritairement les muqueuses, ou vous les distillent en ravissement, ou vous les tissent de fragrance. Et l'on rit et l'on chante, et les refrains fusent à perte de vue comme des cocotiers. Et ce ne sont pas seulement les bouches qui chantent, mais les mains, mais les pieds, mais les fesses, mais les sexes, et la créature tout entière qui se liquéfie en son voix et rythme.
Du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue très étroite, une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats, et la turbulence de mes 6 frères et sœurs, une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de mois, et mon père fantasque, grignoté d'une seule misère, je n'ai jamais su laquelle. Qu'une imprévisible sorcellerie assoupie en mélancolique tendresse ou exalte en haute flamme de colère. Et ma mère, dont les jambes pour notre faim inlassable pédalent, pédalent de jour, de nuit. Je suis même réveillée la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit, et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une singère que ma mère pédale, pédale pour notre faim, et de jour, et de nuit.
Au bout du petit matin, au-delà de mon père, de ma mère, la case gerçant d'ampoules comme un péché tourmenté de la cloque, et le toit aminci rapiécé de morceaux de bidons de pétrole, et ça fait des marais de rouillure dans la pâte grise sordide empuantie de la paille. Et quand le vent siffle, ces disparates font bizarre le bruit, comme un crépitement de friture d'abord, puis comme un tison que l'on plonge dans l'eau avec la fumée des brindilles qui s'envole. Et le lit de planches d'où s'est levée ma race, tout entière ma race de ce lit de planches, avec ses pattes de caisse de kérosine, comme s'il avait l'éléphant diasis, le lit, et sa peau de cabri, et ses feuilles de banane séchées, et ses haillons, une nostalgie de matelas, le lit de ma grand-mère. Au-dessus du lit, dans un pot plein d'huile, un lumignon dont la flamme danse comme un gros ravet, sur le pot, en lettres d'or. Merci.
Et une honte, cette rue de paille, un appendice dégoûtant comme les parties honteuses du bourg qui étend à droite et à gauche, tout au long de la route coloniale, là où le gris de ses toits descente. Ici, il n'y a que des toits de paille que l'embrun a bruni et que le vent épile. Tout le monde la méprise, la rue paille. C'est là que la jeunesse du bourg se débauche. C'est là, surtout, que la mer déverse ses immondices, ses chats morts et ses chiens crevés. Car la rue débouche sur la plage, et la plage ne suffit pas à la rage écumante de la mer. Une détresse, cette plage, elle aussi, avec ses tas d'ordures pourrissants, ses croupes furtives qui se soulagent. Et le sable est noir, funèbre. On n'a jamais vu un sable si noir. Et l'écume glisse dessus en glapissant, et la mer la frappe à grands coups de boxe. Ou plutôt, la mer est un gros chien qui lèche et mord la plage au jarret, et à force de la remordre, elle finira par la dévorer, bien sûr, la plage et la rue paille avec. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève des fidélités trahies, du devoir incertain qui se dérobe, et cet autre petit matin d'Europe.
Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif.
Un homme cafre.
Un homme hindou de Calcutta.
Un homme de Harlem qui ne vote pas.
L'homme famine.
L'homme insulte.
L'homme torture.
On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne.
Un homme juif.
Un homme pogrom.
Un chiot.
Un mandigo. Je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes combustions. Je dirai orage, je dirai fleuve, je dirai tornade, je dirai feuille, je dirai arbre. Je serai mouillée de toutes les pluies, humectée de toutes les rosées. J'aurai des mots assez vastes pour vous contenir. Et toi, terre tendue, terre saoule, terre grand sexe levé vers le soleil, terre grand délire de la mentule de Dieu, terre sauvage montée des resserres de la mer avec dans la bouche une étouffe de cécropie, terre dont je ne puis comparer la fale houleuse qu'à la forêt vierge et folle que je souhaiterais pouvoir en guise de visage montrer aux yeux indéchiffreurs des hommes. Il me suffirait d'une gorgée de ton lait giculi pour qu'en toi je découvre toujours à même distance de mirage, mille fois plus natale et dorée d'un soleil que nul prisme n'entame, la terre où tout est libre et fraternel, ma terre.
Partir. Mon cœur bruissait de générosité emphatique. Partir. J'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien et je dirai, à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai, embrassez-moi sans crainte et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un proscénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et voici que je suis venue, de nouveau cette vie clopinante devant moi, non pas cette vie, cette mort. Cette mort sans sens, ni piété, cette mort où la grandeur piteusement échoue l'éclatante petitesse de cette mort qui clopine de petitesse en petitesse, c'est pelleté de petites avidités sur le conquistador, c'est pelleté de petits larbins sur le grand sauvage, c'est pelleté de petites âmes sur le Caraïbe aux trois âmes, et toutes ces morts futiles.
Encore une objection. Une seule, mais de grâce, une seule. Je n'ai pas le droit de calculer la vie à mon empan fuligineux, de me réduire à ce petit rien ellipsoïdal qui trempe à quatre doigts au-dessus de la ligne. Moi, homme, d'ainsi bouleverser la création, que je me comprenne entre latitude et longitude.
Et je me dis Bordeaux.
Et Nantes.
Et Liverpool.
Et New York.
Et San Francisco.
Pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciels et ma crasse dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi ?
Virginie.
Tennessee.
Géorgie.
Alabama. Putréfaction monstrueuse de révoltes inopérantes, marais de sang putride, trompettes absurdement bouchées, terre rouge. Terre sanguine, terre consanguine.
Au bout du petit matin, ces pays sans stèles, ces chemins sans mémoire, ces vents sans tablettes, qu'importe. Nous dirions, chanterions, hurlerions, voix pleine, voix large, tu saurais notre bien, notre pointe en avant. Des mots ? Ah oui, des mots. Raison, je te sacre, vent du soir, bouche de l'ordre, ton nom, il m'écorole du fouet, beauté, je t'appelle, pétition de la pierre, mais, ah, la rauque contrebande de mon rire, ah, mon trésor de salpêtre, parce que nous vous haïssons, vous et votre raison, nous nous réclamons de la démence précoce, de la folie flambante, du cannibalisme tenace. Trésor. Comptons, la folie qui se souvient, la folie qui hurle, la folie qui voit, la folie qui se déchaîne, et vous savez le reste, que deux et deux font cinq, que la forêt miaule, que l'arbre tire les marrons du feu, que le ciel se lisse la barbe, etc., etc.
À force de regarder les arbres, je suis devenu un arbre, et mes longs pieds d'arbre ont creusé dans le sol de larges sacs à venin de hautes villes doucement, à force de penser au Congo. Je suis devenue un Congo bruissant de forêts et de fleuves, où le fouet claque comme un grand étendard, l'étendard du prophète, où l'eau fait « Likwala, Likwala », où l'éclair de la colère lance sa hache verdâtre et force les sangliers de la putréfaction dans la belle orée violente des narines. Au bout du petit matin, le soleil qui tout saute et crache ses poumons. Au bout du petit matin, un petit train de sable, un petit train de mousseline, un petit train de grains de maïs. Au bout du petit matin, un grand galop de pollen, un grand galop d'un petit train de petites filles, un grand galop de colibris, un grand galop de dagues pour défoncer la poitrine de la terre.
Tu es même pourquoi peut-être, peut-être la passe ouvrée. Jusqu'aux coquillons en dette, tu es mon tissu manqué. Jusqu'aux coquillons en dette, tu es mon tissu manqué. Tu es même pourquoi tu peines. Mon cœur fin fanandé.
Mais qui tourne ma voix, qui écorche ma voix, me fourrant dans la gorge mille crocs de bambou, mille pieux d'oursin. C'est toi, sale bout de monde, sale bout de petit matin, c'est toi, sale haine. C'est toi, poids de l'insulte et cent ans de coups de fouet. C'est toi, cent ans de ma patience, cent ans de mes soins justes à ne pas mourir. Nous chantons les fleurs vénéneuses éclatant dans des prairies furibondes, les ciels d'amour coupés d'embolies, les matins épileptiques, le blanc embrasement des sablots abyssaux, les descentes d'épaves dans les nuits foudroyées d'odeurs fauves.
Parfois on me voit d'un grand geste du cerveau happer un nuage trop rouge, ou une caresse de pluie, ou un prélude du vent. Ne vous tranquillisez pas outre mesure. Je force la membrane vitelline qui me sépare de moi-même. Je force les grandes eaux qui me ceinturent de sang. C'est moi, rien que moi, qui arrête ma place sur le dernier train de la dernière vague du dernier raz de marée. C'est moi, rien que moi, qui prends langue avec la dernière angoisse. C'est moi, oh rien que moi, qui m'assure au chalumeau les premières gouttes de lait virginal.
Que de sang dans ma mémoire. Dans ma mémoire sont des lagunes. Elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars. Dans ma mémoire sont des lagunes. Sur leurs rives ne sont pas étendues des pagnes de femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres et mitraille de barils de rhum génialement arrosant nos révoltes ignobles. Pas moison Dieu doux d'avoir lampé la liberté féroce.
Les nègres sont tous les mêmes, je vous le dis.
Tous les vices, tous les vices, c'est moi qui vous le dis.
L'odeur du nègre, ça fait pousser la canne.
Rappelez-vous le vieux dicton, battre un nègre, c'est le nourrir.
Non, nous n'avons jamais été Amazone du roi du Dahomey, ni prince de Ghana avec 800 chameaux, ni docteur à Tombouctou Askia, Askia le grand étant roi, ni architecte de Djéné, ni Madis, ni guerrier. Nous ne nous sentons pas sous les selles la démangeaison de ceux qui tinrent jadis la lance. Et puisque j'ai juré de ne rien sceller de notre histoire, moi qui n'admire rien tant que le mouton broutant son ombre d'après-midi, je veux avouer que nous fûmes de tout temps d'assez piètres laveurs de vaisselle, des cireurs de chaussures sans envergure, mettons les choses au mieux, d'assez consciencieux sorciers. Et le seul indiscutable record que nous ayons battu est celui d'endurance à la chicotte. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la nègrerie, que nous sommes un fumier ambulant hideusement prometteur de canne tendre ou de coton soyeux, et l'on nous marquait au fer rouge, et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtaient moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes.
Un soir, dans un tramway en face de moi, un nègre. C'était un nègre grand comme un pongo qui essayait de se faire tout petit sur un banc de tramway. Il essayait d'abandonner sur ce banc crasseux de tramway ses jambes gigantesques et ses mains tremblantes de boxeur affamé. Et tout l'avait laissé, le laissait, son nez qui semblait une péninsule en dérade et sa négritude même qui se décolorait sous l'action d'une inlassable mégie. Et le mégissier était la misère, un gros oreillard subi dont les coups de griffe sur ce visage s'étaient cicatrisés en îlots scabieux. Ou plutôt c'était un ouvrier infatigable, la misère, travaillant à quelques cartouches hideux. On voyait très bien comment le pouce industrieux et malveillant avait modelé le front en bosse, percé le nez de deux tunnels parallèles et inquiétants, allongé la démesure de la lippe et par un chef-d'œuvre caricatural, raboté, poli, verni la plus minuscule mignonne petite oreille de la création.
C'était un nègre dégingandé, sans rythme ni mesure, un nègre dont les yeux roulaient une lassitude sanguinolente. Un nègre sans pudeur, et ses orteils ricanaient de façon assez puante au fond de la tanière entrebâillée de ses souliers. La misère, on ne pouvait pas dire, s'était donné un mal fou pour l'achever. Elle avait creusé l'orbite, l'avait fardée d'un fard de poussière et de châssis mêlés. Elle avait tendu l'espace vide entre l'accrochement solide des mâchoires et les pommettes d'une vieille joue d'Ekati. Elle avait planté dessus les deux petits pieux luisants d'une barbe de plusieurs jours. Elle avait affolé le cœur, voûté le dos. Et l'ensemble faisait parfaitement un nègre hideux, un nègre grognon, un nègre mélancolique, un nègre affalé, ses mains réunies en prière sur un bâton noueux. Un nègre enseveli dans une vieille veste élimée, un nègre comique elle est, et des femmes derrière moi ricanaient en le regardant. Il était comique elle est pour sûr. J'arborais un grand sourire complice, ma lâcheté retrouvée.
Et cet état en moi éclos de mon ascendance prodigieuse, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance, ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement, tam-tam de main vide, tam-tam inane de plaies sonores, tam-tam burlesque de trahison tabide.
Vienne le colibri, vienne l'épervier, vienne le bris de l'horizon, vienne le cynocéphale, vienne le lotus, porteur du monde. Vienne de dauphin une insurrection perlière brisant la coquille de la mer. Vienne un plongeon d'île, vienne la disparition des jours de chair morte dans la chaux vive des rapaces, vienne les ovaires de l'eau où le futur agite ses petites têtes, vienne les loups qui pâturent dans les orifices sauvages du corps à l'heure où l'auberge écliptique se rencontre, ma lune et ton soleil. Il y a sous la réserve de Maluette une bauche de sanglier. Il y a tes yeux qui sont sous la pierre grise du jour un conglomérat frémissant de coccinelles. Il y a dans le regard du désordre ces hirondelles de menthe et de genêt qui font pour toujours renaître dans le ras de marée de ta lumière.
Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Et il y a pour le Kyle Cédrat royal. Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté.
Mais les faisant, mon corps, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car pour me cantonner en cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige pécheur de cette unique race. Que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, c'est pour la soif universelle. La sommée libre, enfin, de produire de son intimité close la succulence des fruits.
J'accepte. J'accepte entièrement, sans réserve, ma race qu'aucune ablution d'hysope et de lys mêlée ne pourrait purifier. Ma race rongée de macules. Ma race raisin mûr pour pied ivre. Ma reine des crachats et des lèpres. Ma reine des fouets et des scrofules. Ma reine des squasmes et des cloasmes. Ô ces reines que j'aimais jadis au jardin printanier, et lointain avec derrière l'illumination de toutes les bougies de marronnier. J'accepte. J'accepte. Et le nègre fustigé qui dit « Pardon, mon maître !» Et les 29 coups de fouet légal, et le cachot de 4 pieds de haut, et le carcan à branches, et le jarret coupé à mon audace marronne, et la fleur de lys qui flue du fer rouge sur le gras de mon épaule. Et la niche de M. Vautier Maillancourt où j'aboyais 6 mois de caniche. Et M. Braffin et M. de Fourniol et M. de la Maaudière et le pian, le molosse, le suicide, la promiscuité, le brodequin, le cep, le chevalet, la cipe, le frontal.
Et la détermination de ma biologie, non prisonnière d'un angle facial, d'une forme de cheveux, d'un nez suffisamment aplati, d'un teint suffisamment mélanien, et la négritude non plus un indice céphalique ou un plasma ou un soma, mais mesuré au compas de la souffrance. Et le nègre chaque jour, plus bas, plus lâche, plus stérile, moins profond, plus répandu au dehors, plus séparé de soi-même, plus rusé avec soi-même, moins immédiat avec soi-même. J'accepte. J'accepte tout cela. Et loin de la mer de palais qui déferle sous la syzygie suppurante des ampoules, merveilleusement couché le corps de mon pays dans le désespoir de mes bras, ses os ébranlés et dans ses veines le sang qui hésite comme la goutte de lait végétal à la pointe blessée du bulbe. Et voici soudain que force et vie m'assaillent comme un taureau et l'onde de vie circonvient la papille du morne. Et voilà que toutes les veines et vénules qui s'affairent au sang neuf, et l'énorme poumon des cyclones qui respirent, et le feu thésaurisé des volcans, et le gigantesque pouls sismique qui bat maintenant la mesure d'un corps vivant en mon ferme embrasement.
Et nous sommes debout maintenant. Mon pays et moi, les cheveux dans le vent. Ma main petite maintenant dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience, comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, mais l'œuvre